Working Class Heroic Fantasy, chapitre 20. Le choix de Barn. Précédemment, la compagnie a trouvé l'épée. Emprisonnée sous un verre magique, elle ne peut être récupérée que par son propriétaire légitime. Barn apprend alors qu'il est ce propriétaire puisqu'il est le descendant du forgeron dont avait parlé Carmalière. Suite à un autre maléfice, il s'est retrouvé piégé dans le bureau de Zad Fulmiark, l'orque PDG qu'ils avaient déjà affronté à la fabrique Adabra. Barn détruit sa prison de verre à l'aide de l'épée. Le bruit que fit l'énorme vitre brisée d'un coup d'épée fut strident et peu naturel. Barn savait que la vitre était enchantée et qu'il aurait été impossible de la casser avec une épée classique, ou avec un fusil ou même un missile. L'épée des cerfs avait ce pouvoir, le pouvoir de défendre l'opprimé. L'enfermement était une oppression pour le moins concrète. Barn, triomphant, tenait l'épée droite dans sa main. Il avait adopté une position de défi, la pointe de son arme orientée vers le visage de Zad Fulmiark qui semblait partagé entre la surprise et la colère. Il était dangereux pour Barn de provoquer ainsi l'ire du PDG. C'était un adversaire redoutable. Redoutablement intelligent, et en jugé par son physique, redoutablement fort. Comme Barn aurait pu s'y attendre, l'orque ne put contenir sa rage de voir un pauvre petit humain de pacotille le narguer ainsi, surtout devant des caméras qui retransmettaient le tout en direct. Il posa la main sur sa lourde hache d'armes accrochée au mur et l'empoigna d'un coup sec, arrachant un morceau du support au passage. Il la pointa lui aussi vers le visage de son adversaire. Les journalistes, médusés, observaient la scène bouche bée. Ils étaient sur le point d'assister à un combat à l'arme blanche entre un orque et un humain. Le fait aurait été banal au Moyen-Âge. Il était inconcevable à l'époque moderne. Fulmiark fit tournoyer la hache d'un air menaçant. À l'évidence, il était rompu au maniement des armes, contrairement à Barn qui faisait son possible pour ne pas montrer sa peur. En y réfléchissant, il se dit qu'après tout, il avait bien vaincu Mor-Saraz, qui, lui aussi, savait se battre bien mieux que Barn. Par ailleurs, il n'était pas en possession d'une épée magique à ce moment-là. Il serrait l'épée des cerfs aussi fort que si sa vie entière dépendait de l'objet, ce qui n'était pas tout à fait faux. L'orque se mit en position d'attaque. C'était le moment de vérité. Prenant appui sur ses larges mollets, il se propulsa en avant, projetant sa hache avec un mouvement de bras puissant et précis. Barn, en temps normal, n'aurait jamais pu contrer une attaque si bien portée. Il aurait été tué sur le coup, le crâne fendu en deux. Pourtant, sans qu'il ne sache comment, sa main bougea toute seule et vint placer l'épée sur la trajectoire de la hache, bien au milieu. Il eut un clang sonore. La hache rebondit, mais l'épée ne trembla pas. Barn n'avait même pas senti la violence du coup. Le pouvoir de l'épée était réel. Il était même plus grand encore que ce que Barn avait imaginé. Il se sentit soudain plus confiant et déterminé qu'il ne l'avait jamais été. La sensation de maîtriser son destin, celle dont il avait eu un avant-goût lors de sa confrontation avec Glormax, l'envahissait. Fulmiark recula, horrifié. Il savait que Barn n'aurait jamais pu parer un tel coup par la seule force de son bras. Il comprenait, il savait ce qui était en train de se passer. La vérité. La terrible vérité s'insinuait dans son esprit comme un lent poison. L'épée des cerfs, la légende, tout était vrai. Comprenait-il qu'il était en train de montrer au monde entier son indiscutable nature d'oppresseur professionnel, tant par son déchaînement de violence que par l'inefficacité de ses attaques? Barn, lui, le comprenait, mais au fond de lui, une autre idée lui vint. Un déclic, une illumination. Il savait comment gagner. L'épée lui donnait un pouvoir, certes, mais ce n'était qu'un outil, qu'une parade, un tour de passe-passe. La victoire ne dépendrait pas d'une arme idiote, aussi magique soit-elle. La victoire ne dépendrait même pas de lui seul. La victoire dépendrait des erreurs de Fulmiark. Celui-ci n'était pas orque à abandonner si vite. Il repartit bien vite à l'attaque. Barn devait bien admettre que le personnage était terrifiant. Et que si lui n'avait pas été en possession d'un avantage tel que l'épée, il aurait probablement fini par mouiller son pantalon. Fulmiark tenta d'asséner des coups à Barn, attaquant de tous côtés, tantôt à gauche, tantôt à droite, mais rien n'y faisait. Barn parait chaque coup, ou plutôt l'épée se mettait à chaque fois en travers de la hache. Barnes sentait sur lui les yeux et les objectifs braqués des journalistes. Mais il n'osait pas tenter le destin en cessant complètement de regarder son assaillant pour jeter un œil dans leur direction. Après tout, il ignorait jusqu'à quel point l'épée pouvait le protéger. « Vous vous fatiguez pour rien, Fulmiarque, » dit-il d'une voix assurée. « Vous ne pouvez rien contre l'épée. »«
Silence !»
C'était la seconde fois de la journée qu'un assaillant lui intimait de se taire de cette façon, et il ne put s'empêcher de sourire, ce qui ne fit qu'ajouter à la rage de Fulmiarque. De nouveaux coups de hache plurent. Barnes pouvait presque sentir l'épée tirer sur son bras pour se positionner précisément aux bons endroits. Même si c'était la magie de l'objet qui faisait tout le travail, il trouvait malgré tout jubilatoire de voir Zad Fulmiarque, le puissant, le dominant, le tyran, s'escrimer en vain. « C'est drôle, » fit Barnes en envoyant rebondir un nouveau coup de hache de la nerf faussement ennuyé. « Vous n'avez pas l'air serein. On dirait presque qu'être réduit à l'impuissance vous agace. Un manque d'habitude sans doute. » Cette fois, Fulmiarque ne prit pas la peine de répondre et se jeta sur Barnes de tout son poids. Devant un mouvement aussi peu subtil, Barnes n'eut même pas besoin de l'aide de l'épée et se décala simplement de son axe. La hache du PDG vint s'abattre dans son beau bureau en chêne et le fendit en deux, projetant des copeaux de bois sur les journalistes. Ceux-ci eurent un mouvement de recul, mais ne cessèrent pas d'enregistrer la scène pour autant. Il y eut alors un bruit de pas précipité en provenance du couloir. Tous, Fulmiarque et Barnes compris, tournèrent la tête avec surprise, momentanément distraits du combat qui prenait place dans le bureau. La haute double porte s'ouvrit d'un coup, et sa serrure sauta dans le même mouvement. Deux gobelins firent un vol plané en travers de la pièce et vinrent s'écraser aux pieds de Fulmiarque. Les gobelins étaient sonnés, et souffraient apparemment de nombreuses fractures.
« Qu'est-ce que... »
commença Fulmiarque. C'est alors que quatre personnes pénétrèrent dans la salle. Aménise, Jasion, Pod et Carmalière. Cela leur avait pris du temps, mais ils avaient fini par localiser la pièce où Barnes avait atterri. Plusieurs nouvelles blessures marquaient leur corps. Jasion avait le visage noirci et une partie de ses cheveux avait brûlé. Une entaille saignait sur la jambe droite de Carmalière. Les autres avaient également leur lot d'égratignures supplémentaires. Barnes ignorait par quelle épreuve ils avaient dû encore passer pour arriver au bureau de Zad Fulmiarque. Mais le périple n'avait visiblement pas été de tout repos. Le temps resta suspendu un instant. Les journalistes avaient tourné leurs caméras vers les compagnons. Eux observaient la scène incrédule et tentaient de comprendre la situation. Fulmiarque dévisageait les deux gobelins qui se traînaient à ses pieds. « Barnes !» s'écria soudain Aménise en s'avançant. «
N'approchez pas !» prévint Barnes. « Je maîtrise la situation !»
Aménise s'arrêta net, surprise. Barnes plongea son regard dans le sien, puis fit un signe de tête en direction de l'épée qu'il tenait toujours fermement. Devant son sourire, elle comprit.
« C'est Monsieur Fulmiarque contre moi !» continua Barnes en fixant l'orque. « Personne d'autre !»
Les deux gobelins à terre geignaient et Fulmiarque leur cracha au visage.
« Vous avez entendu ? Foutez le camp d'ici, vermisseau !»
Barnes vit les deux gobelins, probablement les gardiens du bureau de Fulmiarque, se relever avec difficulté et dégarpir en passant d'un air craintif devant la compagnie. Carmalière souriait en voyant Barnes agiter l'épée au nez et à la barbe de Fulmiarque. Les autres avaient l'air plus inquiets, mais restaient à distance, comme Barnes le leur avait demandé.
« Monsieur !» lança un journaliste en s'approchant de la compagnie. « Vous êtes bien le dénommé Carmalière ?»
Alors que la magicienne allait répondre, Fulmiarque se tourna vers le journaliste et avec hargne lança.
« Non mais dites donc, vous comptez interviewer des terroristes dans mon bureau ?»
Le journaliste sursauta, et choqué, fit quelques pas en arrière, piteusement. Il alla se réfugier derrière sa collègue qui tenait la caméra.
« Dès lors que j'en aurai terminé avec Monsieur Musty, » continua Fulmiarque avec le ton d'autorité qui lui était propre, « je m'occuperai de ce Monsieur Carmalière et de ses sbires qui nous ont fait le plaisir de se joindre à nous. »
« Lorsque vous en aurez terminé avec moi, » railla Barnes, « c'est-à-dire pas demain la veille, pas vrai ?»
L'orque se retourna vers Barnes, et comme s'il avait oublié qu'il n'avait aucun moyen de vaincre ce petit humain, il repartit à l'assaut. La hache tournoya et frappa violemment l'épée des cerfs à plusieurs reprises. Les compagnons de Barnes poussèrent des cris terrifiés lors des premiers chocs entre les lames,
mais très vite ils comprirent que Barnes n'était pas en danger. Carmalière exultait. Toute sa théorie sur cet objet légendaire se vérifiait. Pod, Jasion et Amélise assistaient à présent à la scène avec une certaine fascination. Ce n'était pas tous les jours qu'on voyait un orque de 2 mètres de haut se contorsionner, impuissant, pour tenter d'atteindre ce qui aurait dû être une proie facile. « Allons, Fulmiark, » dit Barnes, « soyez raisonnable, vous allez littéralement vous épuiser à la tâche. »«
Tu as bien trop confiance en toi-même, » gronda l'orque, « tu finiras par faiblir. »«
Vous n'avez pas encore compris ?» s'exclama Barnes. « C'est l'épée qui me protège. Tant qu'elle sera entre mes mains, elle le fera. Peu importe ma force ou ma détermination. Les vôtres, par contre, vont décroître, immanquablement. » L'orque avait de moins en moins d'assurance et portait des coups de moins en moins précis, comme dicté par une colère aveugle. Il ne cherchait plus à atteindre Barnes, il voulait simplement montrer toute l'étendue de son potentiel de destruction. Malheureusement pour lui, c'était surtout son mobilier et les parois de son bureau qui en souffraient. « Vous ne pouvez pas gagner, Fulmiark, » dit Barnes.
« Alors tue-moi » s'emporta le PDG. « Tue-moi, finis-en, et va faire ta petite révolution. Et lorsque tu auras terminé et que tu seras devenu le pire tyran de tous les temps, un autre te fera la même chose. Tu n'es rien sans cette épée. Alors tue-moi et prouve à tout le monde qu'il y aura toujours un dominant. »
Non. Barnes avait prononcé ce mot à voix basse, mais il avait résonné dans toute la pièce comme s'il avait hurlé. Le système de domination s'arrête là, continua Barnes calmement. Je n'ai pas l'intention de prendre votre place, Fulmiark.
Tu la prendras, gronda l'orque d'un ton mauvais, parce que le pouvoir de cette épée te le permettra.
Cette épée? Mais je me fiche de cette épée. Vous ne comprenez toujours pas, n'est-ce pas? Cette épée a été créée pour la défense, et c'est uniquement à cet effet que je m'en suis servi. Pas une fois je ne vous ai attaqué avec. L'avez-vous remarqué? Et je ne le ferai pas.
Alors tu ne gagneras jamais, dit l'orque avec un sourire carnassier. Si tu te refuses à vaincre tes ennemis, tu es condamné à passer ta vie comme un rat que l'on chasse. Un vermisseau qui se débat en permanence sous les attaques du plus fort que lui.
Barnes sentait grandir en lui une flamme, un besoin de dire ce qu'il avait à dire, de mettre des mots sur la réalité. Lui qui n'avait jamais été friand des grands discours, se sentait à présent en pleine capacité et en légitimité d'affirmer sa position. Était-ce le pouvoir de l'épée qui lui donnait cette assurance? Ou simplement le fait d'avoir eu comme compagnon de voyage le casse-carmalière? Vous savez, vous avez parfaitement raison. L'épée n'est qu'une protection temporaire, un recours nécessaire dans l'urgence, mais inefficace sur le long terme. Quand on se brûle, on met de la pommade. Mais la solution à long terme, c'est de rester loin du feu, voire de l'éteindre. Cela fait des décennies que le peuple avance à couvert sous les attaques des puissants comme vous, Fulmiark. Il résiste tant bien que mal à votre tyrannie. Il fait grève lorsque vous attaquez un peu plus sa protection sociale. Il vote pour le moins pire de vos laquais en se berçant de la douce illusion qu'il vit en démocratie. Il se bat autant que sa condition le laisse se battre. Mais il perd, en définitive, petit à petit, lentement mais sûrement. L'épée des cerfs, même utilisée sans mauvaise intention, n'aura jamais que le pouvoir de donner une protection supplémentaire, pas celui de supprimer la source du problème.
« J'imagine que la source du problème, c'est moi !»
railla Fulmiark. « Pas tout à fait. C'est bien ce qui est le plus pernicieux. Vous tuer, ou même simplement vous destituer, ne nous avancera à rien, parce qu'un autre prendra votre place. Non, la source du problème, c'est le système qui permet votre domination. C'est parce que les gens que vous exploitez... »«
Que j'exploite ! Je suis PDG d'un des plus grands groupes du monde !»
pesta Fulmiark.
Ces exploités dont tu parles, ce sont des milliers de gens que je fais vivre.
Non, trancha Barnes en secouant la tête. Ce sont des milliers de gens qui vous font vivre, vous. S'en rendrait-il compte si vous désertiez votre beau bureau sans prévenir? Assurément non. Maintenant, imaginez un peu qu'aucun de ces milliers de gens ne vienne travailler demain. Fulmiark ouvrit de grands yeux. Barnes se rendit compte que, malgré l'apparente naïveté de ce qu'il venait de dire, il avait mis le doigt sur l'une des plus grandes craintes de l'orque. Il se mit à parler un peu plus fort, pour que chacun des mots captés par des micros des journalistes soit bien intelligible. Quel formidable indice ce serait, n'est-ce pas, si tous vos bureaux et vos usines restaient vides, insista-t-il d'un ton moqueur. Nous ne sommes des cerfs que parce que nous le voulons bien. Votre hégémonie n'est possible que par notre servitude volontaire. Je n'ai pas besoin de vous battre, Fulmiark. Ce sont les milliers de gens qui le feront. En cessant d'accepter ce système qui est la source du problème, nous ne pouvons pas vous battre par des armes, même magiques. » Il agita l'épée comme si c'était un vulgaire plumeau. « Ça, c'est votre jeu, vos règles. Cela fait des lustres que le peuple vous supplie de changer ses règles en venant vous affronter sur votre terrain. Mais vous comme moi savons que ça ne changera rien. Alors voilà ce que nous allons faire. Nous allons faire sans vous, construire autre chose, organiser une société à notre image. Nous n'aurons nul besoin de vous vaincre, puisque votre pouvoir ne repose que sur notre participation à votre jeu. Nous allons faire le nôtre, à côté. Tout le monde aura voix au chapitre. » Fulmiark laissa échapper un rire ironique qui laissa entendre qu'il doutait lui qu'on lui laisse voix au chapitre. « Oui, oui, » continua Barn sans se laisser démonter. « Même vous, même les orques, même les gobelins. Le problème, ce n'est pas d'avoir un monsieur Fulmiark à la tête de l'Empire. Ce n'est même pas le problème des orques contre les elfes, des gobelins contre les humains. Dans notre quête, nous avons été aidés par un orque et attaqués par des humains. Ce n'est pas ce que vous êtes qui importe, mais ce que vous faites. Vous, en exploitant votre prochain, nous, en acceptant cela. Eh bien, nous, nous allons faire autre chose. Quant à vous, il va vous falloir trouver une voie qui n'implique pas d'avoir l'ascendant sur des milliers de personnes. En êtes-vous capable? Je vous souhaite bon courage, sincèrement. Pour le reste, c'est terminé, Fulmiark. Nous ne sommes plus des cerfs. Je ne suis plus un cerf.
« Ah oui !» vociféra Fulmiark. « Il semble que votre fameuse épée prouve le contraire. C'est bien vous qui l'appelez l'épée des cerfs, ton tact !»
Barn eut un petit rire soudain qui fit sursauter l'orque. « Ah ah ! Mais ce n'est qu'un nom. Le nom sous lequel nous la connaissons, certes. Mais que valent les noms lorsque le système représentatif sclérosé qui nous gouverne s'appelle démocratie ? Que valent les noms lorsqu'un adversaire syndicaliste est appelé partenaire social ? Lorsqu'on parle de coût du travail pour désigner ce qui est en définitive notre niveau de vie, lorsqu'on appelle un travailleur salarié pour le mettre avant tout dans la position passive du demandeur de l'argent et non dans celle active de celui qui crée la richesse. Les mots disent ce qu'on veut bien leur faire dire, et cette épée continuerait à s'appeler l'épée des cerfs, même entre vos sales pattes, Fulmiark ? Le serait-elle pour autant ?
Très bien, trancha l'orque. Si les combats rhétoriques vous ennuient, coupons court. « Et tenons-nous-en au fait, cerf !»
Après avoir craché cette dernière invective, Fulmiark lâcha sa hache droit au-dessus de son crâne où de longs cheveux gris étaient collés par la sueur. Barn était prêt, car tout allait se jouer à ce moment. Il pressentait ce qui allait se passer, mais il avait peur. Si sa théorie sur l'épée était juste, il gagnerait, mais aurait de grandes chances de mourir dans le processus. Si s'était découvert une réserve de courage dont il ne soupçonnait pas l'existence, il n'était pas pour autant un héros qui accueillait la mort avec gloire et honneur. L'arme de l'orque brillait, surplombant un Barn qui semblait plus que jamais minuscule devant Fulmiark. Il tendit le bras et positionna son épée à l'horizontale, barrant l'accès à son visage. Comme au ralenti, la hache effectua un quart de rotation et plongea sur l'épée, Fulmiark concentrant tout son poids et toute sa haine dans ce coup. Cette fois-ci, Barn ressentit toute la violence du choc et fut projeté en arrière, tombant au sol. Simultanément, un autre phénomène se produisit. Lorsque la hache de Fulmiark toucha la lame de l'épée, il y eut une sorte d'éclair de lumière. Un souffle semblable à celui d'une explosion balaya la pièce, et d'un coup, la lame de l'épée se désintégra, s'éparpillant en de fines lamelles de métal. Seul le manche, que Barn gardait toujours serré dans ses mains, était resté intact. L'épée des cerfs était détruite. Un silence de mort saisit le bureau. Fulmiark avait un air triomphant sur le visage, mais il comprit bien vite que cette victoire ne faisait que confirmer la réalité décrite par Barn, qu'il avait réellement cessé d'être sous sa coupe, et que la relation de domination qu'il entretenait avec ses semblables reposait en grande partie sur leur docilité. La servitude volontaire dont la majorité n'avait pas conscience. Une réalité qui avait été diffusée en direct sur les téléviseurs du monde entier. De rage, Fulmiark leva sa hache d'un geste brusque en poussant un grognement sonore. Il était prêt à asséner le coup de grâce à Barn, assis au sol devant lui, impuissant. Il y eut un tonnerre de protestations scandalisées dans l'assistance. De surprise, l'orque suspendit son geste et jeta un regard incrédule à la foule qui le regardait, horrifiée par ce qu'il s'apprêtait à faire. « Attention, Fulmiark !» murmura Barne. « Pas de geste inconsidéré. Vous n'iriez tout de même pas assassiner un employé de bureau désarmé devant témoin. C'est vous qui parliez de flagrant délit tout à l'heure. » Le PDG resta un instant immobile, sa hache toujours brandie en l'air. Barne avait le sentiment que, sous le coup de la colère, il n'hésiterait pas à effectivement l'assassiner en direct à la télévision, malgré les conséquences. Sa fierté d'orque pouvait le pousser à préférer la prison au déshonneur d'être vaincu, moralement, par un faible être humain. Pourtant, il finit par laisser retomber ses bras le long de son corps, et sa hache dans une position non menaçante. Barne ne laissa pas paraître le fait qu'il était soulagé. Il se releva doucement, sans quitter l'orque des yeux. Celui-ci gardait son regard dur et soutenait celui de Barne, mais il ne faisait que sauver des apparences. « Vous avez perdu, Fulmiark, » murmura Barne. « Je n'ai pas besoin de vous transpercer avec une lame pour vous tuer. Vous n'avez pas perdu parce que je suis plus fort que vous, ou parce que je suis le plus malin. Vous avez perdu. Vous allez perdre, parce qu'il suffit d'une prise de conscience collective pour que vous perdiez. L'épée des serres n'existe plus, et c'est tant mieux. Elle n'était qu'un prétexte, qu'une occasion. La quête, la vraie, celle qui compte, ce sont les millions d'êtres ordinaires qui la mèneront. Ce sont déjà les milliers de manifestants rassemblés sur le parvis et dans la forteresse. Oui, tout cela a déjà commencé. Alors peu importe nos petites querelles, Fulmiark. Ce qui importe, c'est que demain, ceux qui font peuvent décider de cesser de faire pour vous, et décider de faire sans vous. Tout votre pouvoir, toute votre force, tout votre argent, tout cela s'évapore devant cette simple réalité. L'orque ne disait plus rien. La lame de sa hache touchait le sol. Barne aurait juré le voir trembler un instant. Néanmoins, le PDG gardait sa stature. Il avait du cran. Barne devait bien lui reconnaître cela. « Nous allons partir maintenant, » conclut Barne en lançant un regard à la compagnie. « Le reste ne dépend plus de moi, ne dépend plus de nous. Le reste dépendra de tout le monde, du peuple, des gens. » Encore une fois, il parlait fort et en direction des journalistes. L'orque leva les yeux vers lui. Derrière la colère, derrière la lueur revancharde qui promettait que jamais il n'oublierait cette humiliation, derrière tout cela, il y avait de la peur. Une véritable peur, profonde, viscérale. Cette peur de tout perdre que les puissants essayaient de dissimuler et qui était leur véritable moteur de vie, celui-là même qui les poussait à se comporter en loup avec leurs semblables. Barne aurait presque eu pitié de Fulmiark, mais il y avait eu la main de Pod, il y avait eu les Valkyries, il y avait eu les tirs à balles réelles, les morts sur le parvis, il y avait eu le dragon et Morsaraz aussi. Au-delà de ça, il y avait eu des siècles de domination et d'exploitation des masses. Fulmiark n'était peut-être pas responsable de l'ensemble, mais il y avait pris part, allègrement. « Au revoir, Fulmiark !» murmura finalement Barne. Dans une dernière provocation, il lui tourna le dos. Il était bien conscient de prendre un risque. La fureur du PDG était loin d'être dissipée. Il avait été humilié et écrasé en direct à la télévision. Un coup de sang final n'était pas à exclure. Cependant, aucune hache ne vint traverser le dos de Barne. Il jeta un regard à ses compagnons. Tous rayonnaient, même Carmalière, qui aurait pourtant sans doute préféré être elle-même à la place de Barne, au centre de l'attention. En se tournant vers les caméras, qui étaient braquées sur lui, Barne prit soudain conscience de ce qu'il venait de faire, de ce que le monde entier venait de voir. Il eut à nouveau ce vertige dont il avait fait l'expérience lors de l'appel à la révolution de Carmalière qu'il avait filmé. Cette fois encore, les conséquences potentielles le dépassaient d'une manière assez phénoménal. Tout à coup, il se mit à entendre les clameurs de la foule, à l'extérieur par la fenêtre du bureau. C'était comme si quelqu'un venait de rebrancher le son, brutalement. Il n'arrivait pas à comprendre ce que disaient les manifestants, mais il était sûr d'une chose, leurs cris étaient des cris de joie. Il rejoignit la compagnie sans dire un mot, et tous ensemble, ils quittèrent le bureau. Les journalistes suivirent, il y eut une cohue où chacun tenta d'être le premier à tendre le micro à Barne, d'être celui qui lui poserait la première question. Pourtant, Barne s'en fichait. S'il ne s'était pas trompé, quelque chose de nouveau était né en ce dimanche après-midi. Il ne pouvait encore totalement imaginer ce que ce quelque chose était, mais une chose était sûre. La terre de Grilek allait connaître de sérieux chamboulements. L'empire de Fulmiark allait en toute logique s'effondrer. D'autres suivraient. S'il n'y avait aucun moyen de savoir où ce chemin allait mener, il y avait pour la première fois depuis longtemps de l'espoir. Pour l'heure, il semblait indiqué de célébrer cette première victoire. Le parvis de la forteresse risquait d'être sacrément animé ce soir.